Je vous salue, Marie. Le titre de cette causerie. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Tiré de 2 Chroniques 20, 15. Cette causerie prend un peu de recul par rapport au combat spirituel. C'est important que si tu vas te mettre au combat, tu saches que tu as dans ton petit sac. Bah, autrement, tu vas pouvoir te battre, mais tu vas te battre. Tu vas pas pouvoir te battre. On va essentiellement parler de la grâce de Dieu, qui est au fondement du combat spirituel. Voilà pourquoi le titre était « Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu ». Vous ne trouvez pas au passage que c'est extrêmement pacifiant, rassurant? Vous vous sentez démuni, cher retraitant, prédicateur aussi, pour combattre? Mais pourquoi tu te tracasses? Tu as juste à laisser Dieu mener le combat en toi. Mais vous voyez, le combat spirituel, c'est de laisser Dieu combattre. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde chez les cathos à se bousculer au portillon. On veut tellement tout faire tout seul. On veut tellement, à cause d'une générosité mal placée, prendre la place de Dieu. Il y a un jeune bien de son temps, avec le langage bien de son temps, à qui un prêtre parlait de la vie chrétienne, de la vie dans l'esprit, de la vie baptismale. Et le jeune dit, « Mon père, la vie en Dieu, ça marche comment ?» Le langage n'est peut-être pas académique, mais au moins il a le mérite d'être compris par tout le monde. L'Église, avec des mots et un langage plus ciselé, parle de l'organisme de la grâce. C'est vrai que c'est bien, mais tout le monde ne comprend pas forcément. Scruter cette divine grâce, agissant, n'éloigne pas, comme je vous le disais, de notre sujet, le combat spirituel. Bien au contraire, puisque cela permet de mieux comprendre la manière dont l'Esprit Saint agit en nous, et par conséquent, la disposition d'âme qui doit être la nôtre pour permettre à Dieu de combattre en nous, avec nous, par nous. La grâce divine, c'est le moteur puissant du combat. Alors, essayons de reprendre le mot de notre jeune. C'est la première partie. La vie de Dieu en nous, ça marche comment? Mais, vous le sentez, certainement. Avant de se poser la question « ça marche comment ?», la question qu'il faut se poser, c'est « est-ce que ça marche vraiment ?» Tellement de gens sont persuadés, même parmi les fidèles, hein, de penser qu'il est tellement loin dans ses nuages et que nous nous serions tellement bas sur la terre qu'il n'y aurait pas de jonction. Combien de catholiques pratiquants ont une vision de la vie chrétienne comme si c'était avoir des idées sur Dieu? Ah ça les idées, ça a donné d'ailleurs idéologie, je vous signale. Qu'est-ce que nous enseigne l'Évangile, le Seigneur Jésus? Il nous dit qu'on est absolument éloigné de cette vision des choses. Nous baignons actuellement, sans vouloir faire intellectuel de service, nous baignons actuellement dans plein nominalisme. De quoi s'agit-il? C'est que l'homme n'aurait aucun accès à l'être des choses, mais que à des idées, et appliquer cela pour la foi chrétienne. Ah oui, Dieu, oui, mais c'est une idée. Mais il vient pas à l'intérieur, pour parler très simplement. Il est loin. Et puis, si on s'approche de lui, ça fait que ça, quoi. C'est qu'un flirt. Mais il n'y a pas mariage. Et l'évangile de Jean, 14, 23, par exemple, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Est-ce que vous réalisez, vous qui êtes baptisés, chers amis, que vous êtes des tabernacles ambulants? Vous réalisez cela? Je ne vous demande pas trop de faire des génuflexions devant chacun dans la journée, ça risque d'être un peu fatigant. Mais il y a quelque chose de cela, les amis. Saint Paul, de manière plus académique, parlera du temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez vraiment? Le philosophe Claude Tresmontant, à propos de cette question, est-ce que ça marche vraiment? Il a une définition du christianisme, pour moi, qui me parle beaucoup, et qui rejoint énormément Benoît XVI dans sa théologie. Il dit « Le christianisme est une doctrine de transformation. » Un des mots, dit le père Pascalide, un des mots les plus fréquents, une des notions les plus fréquentes dans la théologie de Benoît XVI, qu'on taxe d'être un intellectuel, vous savez bien, ce monde qui règne dans certains médias catholiques, et en disant que c'est un intellectuel froid. Le mot qui revient le plus chez Benoît XVI, c'est transformation. Il a un mot un petit peu technique, il parle de performatif. Pour parler très simplement, ça fait quelque chose, le bon Dieu. Ça fait. Ça vous parle, ça? L'enseignement des saints est habité par cette conviction. Regardez, je vous évoquais Jean de la Croix. L'âme, une fois dégagée de ce qui n'est point conforme à la divine volonté, se trouve donc transformée en Dieu par amour. Il faut du temps pour cela. Quand je revois mon histoire, je me dis, il y a quand même eu des années où ça n'a pas donné l'impression que ça, c'était plutôt des sauts de puce. Mais là, je vois vraiment, en regardant dans le rétroviseur, je vois vraiment une transformation. Et c'est pas du tout du nirvana. Hein. Non, non, t'es bien les pieds sur terre. Mais tu sens que tu n'es pas le même. Tout en étant le même. Car un bon principe de la théologie, que l'on doit à saint Thomas d'Aquin, c'est que la grâce affine la nature mais ne la change pas. Mais même le fait d'être affiné par Dieu, on est bouleversé par le changement. Maintenant, venons à la question de ce jeune, puisque nous nous sommes interrogés. Ça marche vraiment? Oui, ça marche vraiment. Simplement, faut lui laisser le volant. Et comme c'est tellement confortable de rester cramponné les mains sur le volant, il y a très très peu de catholiques, assez peu, et même chez les consacrés, qui laissent Dieu prendre le volant. Et la plupart, ça génère chez la plupart une amertume. « Ah ben on dit que ça fait des choses, mais chez moi ça fait rien. » Ben laisse-lui le volant. Maintenant, ça marche comment ? Pour reprendre la question de notre jeune. Je ne vais pas trop m'y étendre. Le catéchisme dit « La Sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la vie même du Christ, si tu préfères, dans l'esprit. » Et qui lui donne, le rend capable de croire en Dieu, d'espérer en Dieu et de l'aimer par les vertus théologales. Elle lui donne aussi de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit-Saint par les dons du Saint-Esprit. Je voudrais revisiter principalement cela. Il y aurait bien d'autres choses dans l'organisme de la grâce, mais vertu théologale et don de l'Esprit. Si vous voulez une image, si vous êtes un peu jardinage, hein, silence, ça pousse, disait quelqu'un. Eh bien, on peut dire que les vertus théologales, ce sont des plantes, un peu comme les tournesols, qui sont tout tournés vers le soleil. Mais si tu n'arroses pas ces plantes, ça ne marchera pas. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont comme trois tournesols qui sont complètement tournés vers le soleil divin. Et les dons du Saint-Esprit, ce sont ces petits entonnoirs, tu sais, t'achètes de l'eau en bouteille, puis après tu vas la couper par le milieu, et puis tu vas planter, hein, comme ferait dans Silence ça pousse, tu vas planter cette bouteille à demi ouverte à la racine même de la plante, du tournesol. Et l'eau va tomber par ce biais et va atteindre la racine. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des dons pour recevoir les dons de Dieu. Et ça nous est donné au baptême. Et quel est le drame? Ça, je le vois ça de, vraiment. Parce que, vous voyez, pourquoi je le vois? Parce que je l'ai vu dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui exercent leur foi, leur espérance et leur charité à partir de l'humain. Sans l'eau qui vient du ciel, sans les dons du Saint-Esprit. Ils sont très généreux, mais ils gèrent. Ben vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Voilà, vous allez avoir une situation pénible à vivre, de famille, d'argent, de fin de mois, de chômage, de conflits avec des voisins pour des histoires de poubelles, c'est souvent pour des trucs de rien qu'on se... Voilà. Vous avez deux manières. J'y arrive pas, je suis pas bien, mon père. Oui. Est-ce que vous faites appel au Saint-Esprit pour le vivre, pour recevoir ses dons? Si vous le faites pas, vous ressemblez à un tournesol qui est tourné vers le soleil, mais au bout d'un moment, il va être grillé par le soleil parce que vous ne l'arrosez pas. Mais alors vous allez me dire, mais il faut donc appeler en tout? Ben oui, en tout. Écoutez, si vous me permettez d'être très simple. J'ai mon téléphone qui est tombé par terre, l'ancien. Il commençait à être un peu âgé. Puis j'ai vu mon frère, et puis il s'y connaît un peu. Alors, on va acheter un truc, Denis? Ouais, j'y connais rien, je te préviens. Hein. Bon. Alors tout est simple pour ces gars-là, et quand tu les as quittés, tu t'aperçois que l'Android avec la voiture, ça marche pas. Enfin, ça marchait pas. Rien ne marchait. C'était dingue quand j'y pense. Et là, j'ai vécu quelque chose encore de plus fort. J'ai osé demander à la Sainte Vierge, j'y arrive pas. Je comprends que ça vous fasse sourire. Pas trop quand même, parce qu'il y a des gens qui le vivent. Mais il y a quelques mois, ça m'aurait fait sourire encore, ou quelques années. Et je me souviens, pour Android, auto, j'arrivais pas. Quand j'arrivais pas, je disais, bon, maman Marie, c'est pas l'heure. Je reviendrai demain. Et puis à un moment, tenez-vous, j'ai touché une touche sans m'en rendre compte. Et puis tout d'un coup, pouf, ça s'est ouvert. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté dans mon oratoire. Oh, maman Marie, je te remercie. Je lui ai dit, trois, je vous salue, Marie. Je suis redescendu. Puis resté après un autre problème. Pour ça, ben, je lui ai redemandé. Ça marchait pas avec mon ordinateur parce que j'ai pas de box. Et donc, comme je me sers peu d'internet, j'ouvre le téléphone, puis ça connecte cet appareil. J'y arrivais pas. Et là, c'est pareil. Tenez-vous, il y avait un code. Tenez-vous, il y avait un code spécial. Vous savez, les trucs secrets, là, qu'il faut rentrer dedans. Et puis je dis, je le tape, mais ça marche pas. Ça marche pas sur mon truc. Et tout d'un coup, à nouveau, j'ai bougé un truc sans m'en rendre compte. Tenez-vous, le code, et il y avait un 9, numéro 9, qui était caché. J'ai fait ça. Vous allez me dire, Père Joël, vous ne seriez pas un petit peu... Hein? Non, non. C'est toi qui es un petit peu... Quand tu ne fais pas appel au Saint-Esprit pour les riens, tu m'entends? C'est toi qui n'as pas les pieds sur terre. Parce que tu veux tout gérer à partir de l'humain. Vas-y, continue. Moi, je peux vous dire que c'est... Je suis pas mécontent. Mais... Timothée 1:2. L'activité de votre foi, dit saint Paul, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance sont l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel est le drame? C'est que nous en faisons notre œuvre. Et tout ça en voulant bien faire et en étant un cateau bien généreux. Vous savez ce que disait le curé d'Ars? Regardez comment son ministère a explosé de fécondité. Est-ce que c'était parce qu'il était compétent? La mention qu'il a reçue pour ses études, c'était débile. Tellement ça rentrait pas le latin et le reste. Mais ça a fait le plus grand saint curé de tous les temps et patron des curés. C'est assez fou comme Dieu utilise ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Et que disait-il? Et là, vous avez le fondement de sa fécondité. Et tu as le fondement de ta fécondité dans la vocation qui est la tienne. Il disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Alors ce dont j'ai peur, je vais vous dire, c'est que je vais avoir des récriminations de vos vendeurs de téléphone parce que vous n'allez plus utiliser leur service puisque vous allez passer par le bon Dieu pour leur faire, pour vous solutionner tout un tas de choses. Le catéchisme dit à propos des dons du Saint-Esprit qu'ils sont des dispositions permanentes de l'âme qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint. Est-ce que ça va? Pour ça marche comment? Mettez ça en œuvre. Passez à l'expérience. Arrêtez d'entendre des discours. Ça sert à rien, même de lire des livres, si tu ne passes pas à l'expérience. Dieu restera au seuil de ton âme. Et puis faites comme j'ai fait. Ça marche pas, vous vous énervez pas. Vous arrêtez. Si on vous laisse un peu de temps, et puis vous revenez, mais il faut avoir un gros cœur d'enfant. De croire que le bon Dieu peut s'occuper d'un téléphone. Mais enfin, mon père, il n'a pas autre chose à faire. Non, il a que ça à faire. Toi. Nous avons tellement une vision de Dieu qui s'occuperait de l'âme et que s'occuper des choses matérielles, ce serait lui salir les mains. Mais enfin, faire qu'une vierge... Mettre au monde un enfant, c'est pas s'impliquer dans la matière, ça? Il n'y a pas plus personne qui a le plus les pieds sur terre que Dieu. Mais parce qu'il a créé la matière. Je vous ai dit, vous aurez jamais tant les pieds sur terre que quand vous aurez la tête dans le ciel. C'est-à-dire, je sais pas, j'y arrive pas, je fais comment, je pense quoi, je dénoue les choses comment. Et je vais vous dire, si vous commencez à le vivre, vous allez voir la joie profonde que vous allez avoir. Vous allez voir aussi la détente profonde que vous allez expérimenter. Pourquoi vous avez beaucoup de tension? Mais parce que vous voulez être à la fois la créature et le créateur. C'est fatigant, je vous signale. Mais si vous vous tenez à votre place de créature qui appelle en tout le créateur, vous allez voir. Et il y a beaucoup de tensions qui vont diminuer dans votre vie concrète. J'en fais l'expérience. Et croyez pas que je suis Schwarzenegger, hein. On va avoir l'occasion de visiter plus tard la charité. Donc je vais m'arrêter sur croire et espérer à partir de Dieu. Et là, c'est la mise en place du combat spirituel. C'est-à-dire, si vous voulez une image, et c'est comme, voilà, on a réalisé le bon branchement pour que l'électricité vienne dans cet appareil. L'organisme de la grâce, la vie à partir des vertus théologales alimentées par les dons du Saint-Esprit, c'est le bon branchement de la vie chrétienne et donc du combat spirituel. Ça va ? Alors, voyons le croire à partir de l'Esprit. J'utilise, même si ça ne fait pas très français, volontairement le mot « à partir de ». Ça me paraît extrêmement important pour disposer le marquage entre une vie pour Dieu et une vie à partir de Dieu. Il y a beaucoup de vie pour Dieu, très peu de vie à partir de Dieu. Comme entend le psaume 50, saint Augustin a cette formule magnifique, dont lui seul a le secret, « Christianos oculos abete ». Ayez des yeux chrétiens. Lorsque nous nous laissons troubler par des nouvelles alarmantes, je vous en ai évoqué quelques-unes, mais j'ai pas besoin de l'évoquer, il suffit que vous parliez pour, voilà, on est tous pareils, on se demande ce qui va se passer. Il y a un côté cocotte minute, bon. Lorsque nous nous laissons troubler par des nouvelles plus ou moins alarmantes, lorsque dans notre vie concrète, du quotidien, je parle, nous subissons des perturbations de toutes sortes, avoir les yeux chrétiens n'est rien d'autre que de poser un regard de foi et de confiance sur la vie du monde et la vie de l'Église et ta propre vie. Pourquoi nous perdons la paix? Parce que nous cessons d'avoir des yeux chrétiens et nous avons des yeux humains. Soit dit en passage, les amis, combien de temps par jour passez-vous devant les télévisions à information continuelle par rapport au Saint-Sacrement? Et interrogez-vous c'est là que vous aurez la réponse de votre perte de paix. L'abbé Pierre, qu'on peut difficilement soupçonner d'être rétrograde, que je sache, vu la fin de sa vie, ce que les révélations, disait ceci à des couples, et c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Ces couples lui disaient, mais comment garder la paix quand on voit tout ce qu'on voit à la télévision? Regardez moins la télévision. Et passer plus de temps devant le bon Dieu. Et comme aujourd'hui ça relève de l'addiction, regardez aujourd'hui combien parmi nous ont déjà leur téléphone dans leur poche, comme si c'était le prolongement de la main indispensable. Vous n'êtes incapable de venir à une conférence sans le joujou. Au cas où, c'est la mort. S'il y avait quelqu'un qui... Mais c'est une véritable addiction. Il n'y a pas que l'addiction des mecs qui shootent. Il y a l'addiction des gens en cravate et bien peignés. Et ça, c'en est une. Si je regarde pas mon père la télé et qu'il y a une nouvelle. Enfin. Qu'est-ce que c'est le cœur d'avoir les yeux chrétiens? C'est ceci. Et moi qui suis de nature peureuse, je vois comment il a pacifié les choses. Oh, j'en suis émerveillé. C'est ceci, c'est extrêmement simple. La vie du monde est dans la main de Dieu. La vie de l'Église est dans la main de Dieu. Et l'effondrement de l'Église fait partie du plan providentiel de Dieu de régénération de l'Église. Si vous ne croyez pas cela, comment faites-vous pour connaître et comprendre et croire le cœur de votre foi qui s'appelle le mystère pascal au moment de la mort du Christ où tout le monde se barrait, apôtres compris? C'est là que la résurrection déjà pointait le nez. Si vous lisez la Bible de Jérusalem, quand Jean dit « Quand j'aurai été élevé de terre », le mot grec c'est « élevé », ben sur la croix, mais c'est le même mot pour « élevé dans la gloire ». Avez-vous déjà les yeux chrétiens pour voir dans cette situation qui va mal, Jésus qui est là et qui prépare cette nouvelle Pentecôte? Mais qui ne se fera pas sans un vendredi saint. Là encore, on ment aux chrétiens. Toutes ces histoires d'effusion de l'Esprit Saint qui va venir sur le monde et qui vous ajoute pas qu'il y aura le vendredi saint et qu'il y aura pas une purification. On ment aux gens. Le monde a un immense besoin de purification. Toutes les lois iniques vont passer. Que ce soit de droite ou de gauche, de toute façon aujourd'hui c'est la grande plaine, il n'y a plus de droite et de gauche. Vous croyez que Dieu pourra venir dans ce monde sans une purification? Enfin arrêtez de rêver quoi. Il faudra une illumination des consciences, c'est pas possible autrement. Il faudra vivre une expérience, quelque chose du purgatoire, cette terre. C'est annoncé par de nombreux mystiques très sérieux. Ne me demandez pas le scénario. Mais le très important, c'est de le vivre sans attendre ces événements-là. Et si vous vivez de la providence ici et maintenant, à travers les riens qui te perturbent, tu vas petit à petit permettre à Dieu de greffer sur tes yeux ses propres yeux, son propre regard. Tu ne seras pas dans un nirvana, tu seras dans le réel. Le réel n'est pas l'apparence. Le réel, c'est la main de Dieu dans tous les événements du monde. Il nous faut développer ce que le pape actuel appelle le sens du mystère. Je vais le lire. Il dit, vous voyez, j'essaye de vous dire maladroitement ce que dit François. Il dit savoir avec certitude que celui qui se donne et s'en remet à Dieu par amour sera certainement fécond. Cette fécondité est souvent invisible, insaisissable, elle ne peut pas être comptée. La personne sait bien que sa vie donnera du fruit, mais sans prétendre comment, ni où, ni quand. Elle est sûre qu'aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue. Moi, j'ajouterais aussi quelque chose. Quand le chèque en blanc est signé avec Dieu. C'est plus fort que ce que dit François. C'est-à-dire que vous allez voir la fécondité à l'œuvre. Vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Le pape François ajoute, « Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit Saint. En renonçant à vouloir calculer, écoutez ça, contrôler tout. L'esprit de chef d'entreprise qui guette homme, femme, consacré, tout ce que vous voulez. Et permettre à l'esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire où il veut. Je me souviendrai toujours d'un week-end retraite dans une paroisse du rural où j'étais allé, c'était assez extraordinaire. Bon, on avait la grâce de super bien s'entendre avec ce jeune prêtre très zélé, ce jeune curé. Et il y avait un monsieur qui s'occupait de toute l'intendance, ces gens extrêmement précieux dans les paroisses dont vous faites certainement partie. Donc le gars était un ancien général, donc il n'y a pas de problème, les gars, ça le fait. Hein. Donc super bien organisé. Et puis il suit la retraite, j'ai dû parler de choses comme ça à un moment. Et le monsieur était très simple avec moi. Et en attendant une autre conférence, il me croise tout ça. Il me dit, mon père, vous me perturbez beaucoup. Je vous ai blessé, monsieur ? Ah non, pas du tout. Mais ce que vous dites avec la vie dans l'esprit, c'est, j'ai jamais fait ça. Vous venez perturber mon mode de fonctionnement. Et ce monsieur, ce qui était très beau, c'est que, au fur et à mesure du week-end, voilà, il y avait, comme on dit à la Réunion, tranche de papa, jusqu'aux oreilles. C'est-à-dire qu'il s'ouvrait, il voyait qu'il y avait quelque chose de nouveau, dans lequel il n'avait jamais osé s'engouffrer, sans doute par éducation. Sans doute aussi parce que quand votre profession vous invite à organiser, gérer, ça a des implications sur la vie spirituelle. C'est très difficile de rester enfant quand vous avez des responsabilités. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un homme d'église qui a des grosses responsabilités et qui a resté qui a gardé un cœur d'enfant. Je ne parle pas arre, hein, régression infantile. Je parle de l'esprit d'enfance. Benoît XVI, c'est le portrait particulier de cela. Espérer à partir de la grâce de Dieu. J'évoquais à l'instant Benoît XVI, j'ai lu un beau petit livre de lui où j'ai trouvé des choses très nourrissantes. C'est une retraite qu'il a prêchée en Italie, je pense. Et le livre synthèse de cette retraite s'appelle « Regardez le Christ ». Je crois qu'il n'est plus publié. On doit trouver quelques exemplaires sur Internet, en occasion. C'est très intéressant son papier parce que à l'époque, nous sommes dans les années 60 et il y a eu l'église de Hollande, pour les plus anciens vous vous rappelez peut-être, qui a dérivé complètement, est devenue protestante quasiment. Et vous retrouvez les mêmes choses aujourd'hui avec l'église d'Allemagne. Si vous pouvez adhérer à tout ce qui se dit au niveau du chemin synodal, vaut mieux qu'on ne se croise pas trop, on n'a pas la même foi les amis. Quand je vous dis qu'il y a de la perturbation dans le bocal, il y en a vraiment de la perturbation dans le bocal. Et là, c'est très intéressant ce que dit Benoît, parce qu'il dit qu'il y a, chez certains hommes d'Église, une présentation de l'espérance sous le terme de l'optimisme, qui est une totale contrefaçon de la vertu d'espérance. Un catholique n'est pas optimiste ou pessimiste, il est un homme de l'espérance, c'est pas la même chose. Et curieusement, méfiez-vous, analysez bien les discours ecclésiastiques, où il y a « tout va très bien hein », il y a de l'optimisme. Vous aurez des critères pour discerner si c'est un discours qui vient du monde, qui est mondain, comme dirait François, ou qui est de Dieu. Je vais laisser parler Benoît. Un certain nombre de personnes en Europe étaient fascinées par l'engagement de l'Église de Hollande, progressisme absolu. Les uns y voyaient l'image pleine d'espérance, vous avez entendu le mot, de l'Église meilleure de demain, d'autres le symptôme d'une décadence. Une personne de l'entourage de Benoît, qui n'était pas à l'époque Benoît, qui était Ratzinger, entreprit un voyage dans ce pays et au retour, il rapporte le compte-rendu suivant concernant l'Église de Hollande. Il s'agissait d'une Église grandiose. Nulle part ne régnait le pessimisme et tout le monde marchait plein d'espoir vers l'avenir. Le phénomène de l'optimisme généralisé faisait oublier toute la décadence et les destructions. Il suffisait de prononcer le mot « optimisme » pour compenser tout le côté négatif. Et Joseph Ratzinger, entendant ce témoignage de cette personne, de son entourage, se fait alors cette réflexion. Que dirait-on d'un homme d'affaires en mauvaise posture qui n'écrirait plus que des chiffres en rouge sur ses comptes de comptabilité et qui, au lieu de reconnaître le mal, c'est-à-dire que tous les chiffres sont en rouge, et d'en chercher les raisons et d'y faire face vaillamment, ne se recommandait à ses créanciers que par l'optimisme. Et là, il ajoute quelque chose de très fort. Et c'est très important. Moi, je le vis comme une, si vous voulez, une parole qui m'invite à la vérité sur ce que je dis. Est-ce que je flatte ce que les gens veulent entendre, ou est-ce que je leur dis ce que Dieu veut que je leur dise? L'optimisme pouvait n'être qu'un masque servant à dissimuler le désespoir que l'on tentait ainsi de surmonter. Mais il pouvait aussi s'agir de quelque chose de plus grave. Écoutez cela. Cet optimisme était peut-être une méthode mise au point par ceux qui souhaitaient la destruction de l'Église et qui, sans faire beaucoup de bruit, voulait construire sous le couvert d'une réforme, mot très à la mode aujourd'hui, tout doit être réformé, une toute autre Église. Une Église à leur goût, ce qui ne pouvait se réaliser si l'on remarquait très tôt, trop tôt, leurs intentions. Dans ce cas, l'optimisme public n'était qu'une sorte de tranquillisant pour les fidèles. Et le cardinal de conclure, cet optimisme de l'orgueil de l'apostasie se servirait de l'optimisme naïf des fidèles et même l'entretiendrait sciemment comme si cet optimisme-là n'était rien d'autre que la certitude de l'espérance du chrétien, la vertu théologale de l'espérance, alors qu'il s'agit en réalité d'une parodie de l'espérance. Nous évoquions ça à table hier soir avec quelques membres de foyer. Le profil pas de vague qui se métastase dangereusement à l'intérieur du tissu ecclésial. Ça donne l'impression d'être du très gentil. Il n'y a pas plus attitude plus méprisante. Elle nie le réel. Et la personne en face n'a pas le droit de s'exprimer, puisqu'il ne faut pas de vague. Deuxième partie, « Ma grâce te suffit ». Nous venons de poser ce qu'est l'organisme de la grâce, bien sûr, avec des mots trop courts. Quel est l'enjeu de la vie chrétienne? Quel est l'enjeu du combat spirituel? Le père Marie-Eugène dit ceci, donc le fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Il dit « L'important, ce n'est pas les dons que tu as, ce ne sont pas les charismes. La seule chose importante, c'est de se laisser prendre par l'Esprit. » Et quand on se laisse prendre par l'Esprit, la grâce est donc bien branchée, elle peut agir, elle peut pénétrer en moi. C'est l'expérience de Saint Paul. Saint Paul, hyper pro, très généreux pour Dieu. Il travaille pour Dieu, mais c'est impressionnant. Il entreprend pour Dieu. Et puis il y a un moment, sur un certain chemin de Damas, sa Harley Davidson a un peu les quatre fers en l'air. Et en plus, il est rendu aveugle. Dieu l'a mis par terre pour le refonder. Avant, il se fatiguait pour Dieu généreusement. À partir de là, il laisse Dieu être la colonne vertébrale de sa vie humaine et de sa vie d'apôtre. Et qu'est-ce que cela produit? Il travaille encore plus qu'avant. Et, excusez-moi du terme qui peut paraître un peu New Age, il se recharge d'énergie. Il le dit lui-même dans Colossiens 1:29. C'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Un des changements pour ma part que je vois, transformation que j'évoquais, c'est que je travaille plus qu'avant et je fatigue moins qu'avant. Vraiment, c'est réel, c'est réel. Pourquoi ? Tu comprends? On va faire un petit détour par Vitose. Vous connaissez Vitose, la méthode Vitose, vous avez peut-être entendu parler. Il y a deux grands mots chez Vitose. Émissivité et réceptivité. Émissivité, c'est quand tu es tendu. Tu vois, tu ressembles un petit peu à Jeannie Longo, la tête dans le guidon. Hein? Réceptivité, c'est quand tu te mets en état de recevoir. Tu es beaucoup moins tendu. Et si donc tu mènes une première vie généreuse pour Dieu, allez les gars, on y va, ça va créer de l'émissivité, de l'attention et de la puissance. Mais si tu te mets en état de réceptivité, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, ce que tu as à faire, tu apprends à le recevoir de Dieu, eh bien, tu vas travailler plus en gagnant plus... Pardon, ça c'est pour autre chose. Tu vas travailler plus en fatiguant moins. Colossiens 1:11, il dit « Animé d'une puissante énergie, par la vigueur de sa gloire, vous acquerrez une parfaite constance et endurance. » Vous savez, quand il y a des transformations qui sont produites comme ça avec le temps, après, des passages de l'Écriture, vous les lisez de manière totalement différente. Pourquoi ? Parce que vous les vivez de l'intérieur. Et donc, ils vous parlent tout autrement. La prière est un lieu pour se laisser télécharger de la grâce de Dieu. Qui après va être utilisé en dehors de la prière. La prière, c'est pas pour que la prière boucle sur elle-même, c'est pour que la prière irradie toutes les activités, tout ce que tu vis. « Je vous disais que la prière télécharge, bon, c'est pour utiliser un langage qui vous est parlant, mais je vous signale qu'en parlant ainsi, je dis la même chose que Jean de la Croix quand il dit « La foi donne Dieu lui-même ». Appliquez cela très concrètement. Tout à l'heure, vous allez aller prier. Vous pouvez avoir un cœur complètement sec. Vous avez une vue de foi. Ayez les yeux chrétiens. Mystérieusement, votre disque dur se laisse télécharger par le bon Dieu. Je parle de votre âme. Si vous saviez, les gens ils disent ça parce que j'ai vu un couple hier, des anciens paroissiens, j'ai vu par hasard, qui était en week-end. Et donc ils vous disent, oh, mon père, qu'est-ce que vous devez travailler beaucoup, écrivez des livres, tout ça. Oui, vous savez, les livres c'est rien d'autre que les retraites, faut quand même que je bosse pour les retraitants, moi, je ne vais quand même pas leur servir un jambon beurre à chaque fois, non. Mais si les gens savaient qu'on travaille en s'amusant, si vous vivez cela de l'intérieur, vous ne rirez pas à ce que je vous dis, parce que vous le vivrez et vous le comprendrez. On travaille en s'amusant. Je lui ai signé un chèque en blanc cette semaine, parce qu'au niveau du boulot, je savais que ça allait donner quelque chose de pas terrible. 110 personnes, et les pères du foyer sont pas là. Bah, c'est merveilleux, expérience d'impuissance. Et donc, Jésus, tu vas agir, mais je vais vivre instant après instant, sans penser à demain. Comment je vais faire pour écluser tout ce monde? Mais je ne vais rien écluser, c'est lui qui va faire. Mais quelle purification, quel retournement de l'âme il faut pour devenir simple. Simple, pour oser croire, penser à mon général. Hein? C'était perturbant pour lui, parce qu'il fallait devenir simple. Il fallait qu'il continue à travailler, mais en apprenant à laisser Dieu travailler en lui, dans les rien du quotidien. Troisième partie. La grâce du Christ, de l'Esprit, nous est accessible en cascade. Vous pourriez vous dire, mais enfin, mon père, Jésus, il est mort il y a 2000 ans, et comment la grâce, on l'a aujourd'hui? On est orphelin? En cascade. Le Christ est marié. Il a une épouse, immaculée, et il est vierge. C'est l'Église. Alors, je sais que le visage est un peu déformé, hein, un peu sali aujourd'hui. Est-ce que vous croyez quand même que l'Église qui est composée de pécheurs est quand même la Sainte Église? Ça a des implications très concrètes. Vous avez un baptême avec vos petits-enfants ou vos enfants. Le prêtre peut être un Judas ou un Saint-Pierre. Dieu ne donne pas sa grâce en fonction de la sainteté du prêtre. Et voilà ce que veut dire Église sainte. C'est-à-dire que dans les sacrements, tu reçois la sainteté de Dieu, quels que soient les pauvres instruments qui vont te le donner. Heureusement, les amis. Parce que ça voudrait dire qu'on changerait d'église ou de prêtre en fonction de ce qu'on sentirait. Vous savez que saint François d'Assise, pour expérimenter la nudité du sacrement de confession, faisait exprès d'aller se confesser à des prêtres connus pour leur vie de concubins, de pécheurs, d'impurs. L'Église fontaine de la grâce de Dieu. Vous connaissez Chesterton? Kate, un converti anglican, un bon gros bonhomme, un peu style Léon Blois, même armoire à glace, mais cœur d'enfant. D'ailleurs, je crois qu'il a écrit un bouquin parallèle entre Chesterton et Benoît XVI. Chesterton. Quand les gens me demandent pourquoi vous êtes-vous unis à l'Église de Rome, hein, catholique, ma première réponse est celle-ci, pour me libérer de mes péchés. Parce qu'il n'y a aucun système religieux qui déclare vraiment qu'il libère les gens de leurs péchés. J'ai trouvé simplement une religion, écoutez cela, qui ose descendre avec moi dans la profondeur de mon être. J'espère que cette semaine, ça t'aidera à renouveler ta pratique du sacrement de confession. Ne vous inquiétez pas, il y aura du monde aussi jeudi pour confesser, même si on n'est pas loin. Et puis moi, je vais en profiter, il y aura des prêtres, on va pas se priver du sacrement de pardon. Hein. Un prêtre, ça se confesse aussi, je voulais vous dire, même s'il n'a pas tué les pères et mères. Le juste pêche 7 fois par jour, dit l'Écriture. L'Église n'est pas Dieu. Mettons pas sur le même plan l'Église et le Christ. Mais l'Église est du Christ. Écoutez ce père de l'Église qui s'appelle Isaac de l'Étoile. L'Église ne peut rien remettre les péchés, ne peut rien remettre sans le Christ, et le Christ ne veut rien remettre sans son Église. L'Église ne peut rien remettre si ce n'est à celui qui se répand, c'est-à-dire à celui que le Christ a touché par sa grâce. Le Christ ne veut rien considérer comme pardonné à celui qui ne veut pas recourir à l'Église. L'Écriture, autre fontaine de la grâce à l'intérieur de l'Église. Saint Ambroise de Milan, grand commentateur, traducteur de l'Écriture. Si tu frappes à la porte des Écritures, le Verbe de Dieu t'ouvrira. Tout à l'heure, on va accueillir la parole de Dieu. Comment vous l'accueillez ? Quand j'étais vicaire en paroisse et qu'on allait dans les équipes de liturgie. Oh, vous ne pouvez pas nous mettre quelque autre chose que vos histoires d'Ancien Testament, on n'y comprend rien, c'est bizarre. Est-ce que vous savez que c'est parole de Dieu, l'Ancien Testament? Le problème, c'est pas ce qui est marqué. Le problème, c'est ta disposition d'âme. Tu l'écoutes avec ta cervelle au lieu de l'écouter avec ton âme. Quand tu écoutes une parole de Dieu, moi je fais comme ça. Je sais pas, bien sûr, je sais lire Béaba, bon, d'accord, mais toi aussi, bon. Mais je sais pas lire dans l'esprit l'écriture qui a été écrite par l'esprit. Voilà pourquoi même l'écriture, il faut demander à l'esprit la lumière pour entendre et se laisser nourrir par l'esprit. Le pasteur Richard Wurmbrand, qui a subi 14 ans de prison, en Roumanie, raconte que les communistes publiaient des livres pour ridiculiser la Bible et nombre de versets y étaient cités. Ce qui faisait le bonheur des chrétiens emprisonnés à qui on interdisait le moindre livre et qui se servaient de la propagande anti-chrétienne qui citait des paroles de l'Écriture pour se nourrir de l'Écriture. Quand on voit aujourd'hui les Bibles offertes aux enfants de profession de foi, ah, il n'y a pas de problème, hein. Elles sont hyper neuves, hein. Ah, les tranches sont pas du tout abîmées, hein. Sauf qu'elles ont été mises dans un truc et jamais les personnes s'en servent. Quand je suis allé en Afrique passer 2 ans, et que je voyais chez nos frères africains les jeunes, oh, ils avaient des Bibles, mais elles étaient noires de crasse. Mais pas parce qu'ils sont sales. Mais parce qu'ils les utilisaient, tout simplement, à la différence de nos jeunes, et de nous-mêmes, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire, mon père, là? Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Oh, combien de fois la faim qu'ils avaient, les frères africains, par rapport à nous, c'est nous qui sommes en retard. La faim qu'ils ont, hein, les sœurs qui sont d'Afrique, vous en témoignerez sans problème, la faim qu'ils ont de l'écriture par rapport à nous, parce qu'on a décrété que c'était de l'archéologie, parce qu'on l'a entrevu intellectuellement, plus exactement cérébralement. Et puis j'arrête là, se laisser pratiquer par les sacrements. Comment veux-tu avoir la grâce de l'esprit si tu ne vas pas boire où Jésus te dit « Je vais là te donner ma grâce ». Les sacrements. Les sacrements, c'est Dieu qui se donne. Siméon, le nouveau théologien, j'arrête là-dessus. Lorsque nous communions à ta chair et à ton sang immaculé, tu ne participes pas à notre corruption et à nos souillures, mais c'est toi qui me donnes part à ta propre pureté, incorruptible, ô Verbe. Tu me rends à la lumière, moi qui auparavant étais plongé dans les ténèbres.